MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Je vous l'ai dit toujours, ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ, afin que vous connaissiez, imitiez et viviez la vie de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli, justement, est comme son maître. On a déjà commencé depuis le début de cette semaine à parler de devenir un disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, en particulier, je veux qu'on entre réellement dans le corps de cette idée. C'est comment qu'on fait pour devenir disciple de Jésus-Christ. Je vais vous proposer 11 verbes, mais que je vais mélanger dans une certaine façon de faire, ça donnait que 5 points. Parce que je pense que certains de ces verbes vont ensemble. Let's teach. Grandissons ensemble. Pour commencer aujourd'hui avec le premier groupe de verbes que j'ai mis ensemble pour nous rappeler nos actions et les manières de vivre notre vie de disciple de Jésus-Christ, je voulais déjà commencer par vous faire un petit rappel au sujet de la campagne des dons dans laquelle nous sommes. On a commencé depuis un moment à rappeler le fait que cette œuvre de MCI TV a besoin de vos dons mensuellement. Prenez un engagement pour que chaque mois vous puissiez commencer à envoyer à MCI 35 euros seulement pour pouvoir soutenir cette œuvre. Déjà, je dis merci à tous ceux qui ont fait de cette œuvre ce qu'elle est. Et moi, je ne cesse pas de vous dire combien je suis reconnaissant. Mon entrée dans cette grande équipe a été réalisée à travers vos dons jusqu'ici. Imaginez ce que nous pouvons encore faire plus pour le royaume du Seigneur lorsque chacun de nous pourra donner mensuellement, un engagement pas pour une fois, mais mensuellement, à partir d'un minimum de 35 euros mensuellement pour pouvoir soutenir cette œuvre. Vous avez tous les détails dessus. Cliquez, allez voir comment vous pouvez réellement participer à cette œuvre et le Seigneur vous rendra au centuple. Pour l'instant, parlons de comment être disciple de Jésus vraiment. Je vous ai promis 11 verbes, mais que je mélangerai un peu parce que la Bible, c'est elle qui m'a inspiré de faire ces mélanges de mots. Premièrement, si vous voulez être disciple de Jésus, deux verbes qui se mettent ensemble, comme Jésus lui-même l'utilisait, veiller et prier. Vous devez veiller et prier. Jésus, quand il utilise veiller et prier, il n'utilise pas veiller dans le sens de rester éveillé et de ne pas dormir parce que vous avez fait une veillée de prière. Non, il parle dans l'idée de rester attentif, d'exercer son discernement par rapport aux événements du temps de la fin, de rester attentif à son retour, de rester attentif, de veiller sur soi-même pour ne pas perdre la voie. Mais c'est aussi vivre une vie de prière et de consécration au pied du Seigneur dans la prière, une vie de culte personnel. Si vous voulez être disciple de Jésus, gardez le discernement dans le temps et mettez vos genoux à terre pour prier. Vous devez avoir un moment de prière. Quel genre de disciple serez-vous si vous ne restez pas là au pied du maître? Et au pied du maître, c'est dans la prière qu'on va le faire. Vous ne pouvez pas passer des journées comme ça sans avoir un programme de prière. Vous rendez grâce à Dieu parce que vous êtes réveillé le matin, c'est fantastique. Vous rendez grâce à Dieu parce que vous avez fini votre journée le soir, vous voulez dormir, c'est fantastique. Vous voulez être disciple de Jésus, que faites-vous pendant la journée? Avez-vous un moment où vous vous arrêtez pour pouvoir parler avec vous? Le matin, chacun de nous se réveille, court à gauche, à droite. On a un moment où il faut lire des mails du travail. Il y a un moment où il faut appeler sa femme, ses enfants, son amoureux, son amoureuse. Il y a un moment où on pense à sa famille. Il y a un moment où on veut connecter. On ne fait pas que des tâches régulières. On veut rester en connexion avec les personnes que l'on aime. Et à ce moment-là, Dieu se dit aussi que toi, tu viendrais certainement à ses pieds pour passer du temps avec lui, l'adorer, le glorifier, m'être fortifié par sa présence parce qu'il a de quoi te fortifier pour continuer cette vie chrétienne. Veiller et prier. C'est ça la vie des disciples. On devient disciple quand on apprend à veiller et prier. Lisons la Bible. Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41, le dit bien. Matthieu 26, 40 à 41. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Veiller et prier, c'est la solution de Jésus pour réussir à résoudre cette tension qui existe entre la chair et l'esprit. Veiller et prier. La chair est faible, l'esprit est disposé. On veut être disciple de Jésus, mais le corps de temps en temps te dit « Ah tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire une pause aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne peut pas faire une pause de craindre Dieu aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment juste un petit moment faire comme tout le monde ?» Et Jésus dit « La solution pour vaincre ce petit moment d'incertitude et de guerre interne, c'est que vous sachiez veiller et prier. » N'oubliez pas que Jésus parle ici, même quand l'idée de veiller, après dans la Bible, va s'agrandir et parler de l'idée de rester éveillé dans les choses spirituelles. Comme par exemple dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » C'est-à-dire veillez à la façon dont vous priez. C'est-à-dire rassurez-vous que vous puissiez le faire régulièrement. Quand, par exemple, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Soyez sobre, veillez. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Là, l'idée, c'est de soyez sobre, soyez attentif aussi. Veillez sur vous-même, veillez contre, par rapport aux attaques qui viennent. Mais quand Jésus utilise ça dans Matthieu, il vient déjà d'utiliser le verbe veiller en disant, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Pour dire, vous n'avez pas pu rester éveillé la nuit en train de prier avec moi. J'aimerais vous encourager non seulement à avoir une vie de prière, veiller, prier, mais aussi une vie de prière nocturne. Pourquoi nocturne? Simplement parce que c'est un exercice spirituel comme jeûner. J'aime bien le fait que la Bible souligne le moment de jeûne de Jésus des 40 jours en disant « Jésus jeûnait et priait pendant 40 jours et 40 nuits. » C'est-à-dire même la nuit, il jeûnait, même la nuit, il ne mangeait pas. Il jeûnait, il continuait à prier même la nuit. Et un bon disciple de Jésus relève le défi qu'il y avait ici. Il appelle Pierre, il appelle Jean, il appelle Jacques, mais ils vont prier la nuit. Mes amis, l'un des moments où vous devez apprendre à challenger votre corps, à défier votre corps, à lui apprendre qui commande, c'est de temps en temps de donner un petit moment de votre sommeil à la prière. Autant on vide nos estomacs pour manger. Vous savez, Dieu n'a rien à voir avec nos estomacs. Ce qui se passe, c'est pour nous que ça se passe, pour nous préparer, nous rendre un peu plus disponibles aux choses spirituelles. Parmi les bons exercices d'un disciple de Jésus, c'est de passer la nuit dans la prière. Souvenez-vous, Jésus le faisait lui-même. C'est comme ça qu'il a préparé la croix, passer la nuit dans la prière. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Jacob, passer la nuit dans la prière. C'est là que l'ange de l'Éternel le rencontre, il passe toute la nuit. Passer la nuit dans la prière est un très bel exercice. Et un disciple de Jésus sait veiller et prier. Deuxièmement, on associe cette fois-ci trois verbes sur comment vivre la vie de disciple. Vous voulez vivre la vie de disciple? Je vais associer trois verbes pour vous maintenant. C'est dans la Bible. Apprenez, croissez et enseignez. Oui, apprenez vous-même, croissez avec ce que vous avez appris et enseignez. Pourquoi ça finit par enseigner? Deux fois, on ne se rend pas compte que l'enseignement fait partie de notre croissance. L'enseignement, c'est la porte de sortie de la croissance. Quand vous avez appris, une des meilleures façons de retenir ce que vous avez appris, c'est de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Si vous voulez être un disciple de Jésus, gardez ce processus-là. Apprenez. Une fois que vous avez appris, grandissez, croissez avec ça. Et après, ne restez pas là. Mettez-vous en position d'enseigner aux autres ce que Jésus nous a donné comme recommandation. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, devenir disciple, le mot c'est apprenant. Restez aux pieds des autres, apprenez, restez aux pieds des apôtres, écoutez les serviteurs de Dieu, restez avec la parole de Dieu, la Bible, mais vous ne devez pas arrêter d'apprendre. Suivez Teach, pourquoi pas, mais apprenez. Une fois que vous avez appris, grandissez avec ça. J'ai vu à l'église des gens qui ont tellement appris pour devenir des stylos rouges et des encres correcteurs. C'est juste pour corriger comment les autres parlent, donner des avis quand ils entendent des prédications, mettre une croix sur une chose ou une autre, mais ils font rien avec. Ils vivent pas cela. Pour grandir, vous devez intérioriser ces vérités et décider de vous soumettre à la parole. Quelle que soit la guerre interne qu'elle peut amener, vous soumettez à la parole de Dieu parce que vous voulez grandir. Vous devez sentir vous-même que j'étais là. Et par la grâce de Dieu, je suis monté, j'ai grandi. Je vais vous lire un texte, ce qui va vous faire vraiment... Moi, ça me fait bizarre quand je lis ces textes ici. Je me dis, waouh, est-ce que l'Église de Dieu est consciente de ça? Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. L'homme d'Hébreux parle. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. L'homme d'Hébreux parle à ces chrétiens d'origine juive qui sont en train de subir une tribulation. Il leur rappelle beaucoup de choses qu'il y a dans l'Ancien Testament. Mais là, il leur parle non plus avec juste cette pensée sur laquelle ils sont des juifs d'origine. Mais il leur parle du fait qu'ils sont devenus chrétiens. Et il se plaint d'une chose. Lisons. En effet, après tout ce temps, vous deviez être des maîtres dans les choses de Dieu. Vous voyez ça? Vous deviez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne des rudiments des paroles de Dieu. Des rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà. Mes frères, il y a un niveau où on doit grandir. Il y a un niveau où il faut grandir. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas que le lait. Il n'y a pas que les fondamentaux. Il y a un niveau supérieur. Il y a de la nourriture solide. Vous voulez être un disciple? Mangez, grandissez. Parce que dans les choses que vous mangez, il n'y a pas que de lait. Même dans votre façon d'apprendre, votre croissance en dépend. Plus vous grandissez, plus vous apprenez d'autres genres de choses. Mais après tout ça, vous devez aussi communiquer. Un disciple partage. Un disciple est enflammé, il a envie de montrer aux autres ce qu'il a appris. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2 le dit. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Paul parle à Timothée, il dit, « J'ai enseigné, tu étais là, devant les gens, tu as appris. La responsabilité que tu as, c'est de l'apprendre aux autres aussi. Mais moi, je suis qu'un enfant, je suis encore trop jeune. Paul, c'est toi l'enseignant. » Dis non, 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 si tu es disciple, ce que tu dois apprendre aussi à enseigner, à partager ce que tu as appris. Troisième groupe des verbes. Je vous ai dit que j'avais 11 verbes que j'ai groupés. D'abord, c'était veiller et prier. Puis, c'est apprenez, croissez, grandissez. Maintenant, deux verbes à mettre ensemble. Témoigner et démontrer. Témoigner et démontrer. L'enseignement dont je viens de parler tout à l'heure, c'est un peu lié dans le cadre de passer les connaissances aux autres frères et sœurs dans la foi. Mais témoigner, c'est dans le cadre de évangéliser. Démontrer, c'est dans l'idée de laisser la puissance de Dieu se manifester à travers de vous. Mes frères, nous sommes disciples de Jésus. Nous ne sommes pas chimistes de labo. Nous sommes disciples de Jésus. Nous ne sommes pas des génies de la NASA. Nous sommes disciples de Jésus. Nous ne sommes pas les meilleurs des créateurs de je ne sais pas moi de la fusée. Notre message, c'est qu'il est vivant. Mais on ne peut pas le voir, mais on y a cru. Comment croiront-ils s'ils ne voient pas l'œuvre de sa puissance? Les premiers disciples qui ont été avec Jésus, tout le monde sait qu'on a enterré Jésus. Et il semble qu'il est ressuscité. On va dans son tombeau, on ne trouve pas son corps. C'était si facile à l'époque qu'on puisse imaginer, oh, ils ont inventé un truc. Ils ont juste enlevé son corps pour pouvoir inventer ça. Vous croyez que les gens le croyaient à eux à cette époque-là? Non. C'était encore plus facile de ne pas croire à une telle chose à cette époque. Parce que tout le monde savait et tout le monde a vu Jésus à la croix mourir. Et maintenant, ils sont en train de raconter que Jésus est vivant, il n'est pas mort. Donnez-nous les preuves qu'il est vivant. La seule preuve, c'était qu'il fasse les choses que Jésus faisait. Parce qu'ils avaient l'esprit de Jésus. Mes frères, à un moment, il faudrait qu'on arrête de débattre, qu'on arrête d'expliquer, qu'on arrête d'inventer, qu'on arrête d'insister. Il faudrait prouver qu'il est vivant. De la même manière que les premiers disciples ont prouvé qu'il est vivant. Quand les gens sont venus en train de se dire, c'est paralytique, marche. Il dit, pourquoi ça vous étonne? C'est au nom de Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est en son nom que cet homme a repris la capacité de marcher. Mes frères, nous aurons beau parler, sans la puissance du Saint-Esprit pour démontrer l'évangile auquel nous avons cru. Nous ne serons pas des disciples, nous ne serons que des discoureurs. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 7 à 8, nous prouve que Dieu nous a donné tous les moyens pour témoigner et démontrer. Parler de Jésus avec passion et démontrer qu'il est vivant par des signes, par des prodiges et par des exaucements puissants de la part de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 7 à 8. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mon frère, la puissance a déjà été donnée. Si tu as cru, si tu as reçu l'Esprit, tu as reçu la puissance pour démontrer, pour témoigner, pour montrer, dire aux gens que Jésus est vivant et qu'il peut vivre dans leur cœur. Comment ils vont croire que ce fameux Jésus va vivre dans leur cœur s'il n'y a pas des signes qu'il est vivant? Et les signes qu'il est vivant, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit est là pour glorifier Jésus. Il agit afin que les hommes et les femmes sachent que Jésus est vivant et qu'il agit encore jusqu'à aujourd'hui. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, montre comment, de son vivant sur la terre, Jésus était en train de donner déjà ce pouvoir. Jésus, vous savez, il était là, mais il y avait des jours où il dit, « Bon, aujourd'hui, je ne vais pas. Vous allez à ma place. » Juste pour leur démontrer que ça fonctionne. Il restait et les disciples allaient, faisaient des grandes choses. Il revenait avec un rapport. Matthieu 10, versets 7 à 8. La Bible dit, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est un ordre, mes frères. Jésus a dit, allez, n'allez pas juste parler. Allez, dites, le royaume des cieux est proche. Mais ce n'est pas tout. Allez, dites, le royaume des cieux est proche. C'est ça le message. Frères et sœurs, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais après, il y a un autre niveau. Guérissez les malades. C'est un ordre. Ressuscitez les morts. C'est un ordre. Purifiez les lépreux. C'est un ordre. Chassez les démons. C'est un ordre. Mes frères, nous avons reçu l'ordre de témoigner, mais aussi de démontrer. Un disciple de Jésus doit être passionné de donner la preuve que son Jésus est vivant et d'être l'instrument par lequel Dieu agit puissamment. Pas pour mettre ça sur Facebook, pas pour qu'on sache que l'homme de Dieu, l'homme de feu, non. Juste pour que ce message de l'évangile que nous annonçons soit authentifié, que Christ est vivant. Alors, quatre avant-derniers groupes des verbes que j'ai mélangés pour vous. Écoutez-les très bien. Aimer et pardonner. Un disciple de Christ, pour vivre la vie d'être disciple, vous devez apprendre à aimer et pardonner. Jean chapitre 13, verset 34 le dit. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci. J'aurais bien voulu qu'il dise ça de miracle aussi. Hein. Mais là, Jésus insiste et dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. En faisant quoi? En vous aimant. Un disciple de Jésus, c'est celui qui a l'amour dont 1 Corinthiens nous parle, qui ne soupçonne pas. L'amour, que deux fois qu'on lit, on se dit, waouh, est-ce que cet amour existe? Un disciple de Jésus aime comme Jésus. Mais deuxièmement, il pardonne. Jésus a pardonné. Vous savez, Jésus aurait pu se dire, en descendant la croix, ouf, heureusement, hein? Père, pardonne-leur, parce que là, je suis quand même ressuscité. Pardonne-leur de tout ce qu'ils ont fait. Non, Jésus a offert le pardon pendant qu'il souffrait encore. Vous savez quel est le meilleur moment d'offrir le pardon? C'est quand on souffre encore. Pendant que ça fait encore mal. C'est à ce moment-là qu'on dit, Père, pardonne-leur. Un disciple s'est pardonné. 1 Pierre chapitre 1, versets 2 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quand vous êtes chrétien, vous êtes disciple, vous devez apprendre à aimer. Colossiens 3, 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Un disciple de Jésus sait pardonner. Le dernier groupe de verbes, pour clôturer aujourd'hui, sur comment vivre la vie d'être un chrétien, à un disciple de Jésus? Vivre la vie de disciple signifie aussi ces deux derniers verbes. Contentez-vous et partagez. On doit en parler. Cet aspect de la vie de disciple dérange beaucoup. Que mangerai-je? Que boirai-je? Comment vivrai-je? Qu'est-ce que je vais porter? Les biens de ce monde, des fois, c'est source de tellement de problèmes. On en a besoin et le Seigneur sait, dit la Bible, qu'on en a besoin. Mais un disciple, si vous voulez être un disciple, voici l'attitude. Contentez-vous de ce que vous avez. Puis, partagez. Vous ne serez pas toujours l'homme ou la femme la plus riche du monde. Mais être un disciple de Jésus, c'est partager ce que l'on a. Peu, beaucoup, mais partager. C'est seulement celui qui sait se contenter de ce qu'il a, qui apprend le plaisir de partager. Lisons 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 9. Et les restes de minutes qui me restent, je vais consacrer ça à une assez longue lecture. Mais vous verrez que c'est pertinent. Commençons d'abord par 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 9. La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. J'aime cette version. Il dit la véritable foi en Dieu est source de richesse. Être chrétien, c'est une richesse. Comment? Si on sait être content de ce qu'on a. Le fait d'être juste heureux avec ce que Dieu t'a donné maintenant, si tu en as maintenant, c'est ce qu'il te fallait. La suite dit, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Frère, nous n'avons rien à porter. Nous n'emporterons rien. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Aujourd'hui, le monde nous montre, la publicité nous montre qu'on a absolument besoin de cette dernière forme de télé, cette dernière marque de téléphone. On nous ment, on nous fait croire qu'on a besoin de choses qui sont que des plaisirs passagers. Tous tes désirs ne sont pas des besoins. Alors un disciple sait faire la différence entre ses besoins. Ses besoins, c'est si on a des nourritures et des vêtements, nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition, dit la version de Semer. Vouloir à tout prix. Mes frères, nous ne suivons pas Jésus pour devenir les hommes les plus riches. On l'est déjà, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Un disciple ne poursuit pas le bien matériel. Un disciple sait se contenter de ce qu'il a. Quand vous devenez un disciple de Jésus-Christ, il ne vous dit pas que vous deviendrez millionnaire. Nous ne serons pas tous des millionnaires, sincèrement. Et être millionnaire, ce n'est pas une petite responsabilité. Et quand tu viens à Jésus, tu as trouvé ta plus grande richesse. Christ est ta plus grande richesse. S'il te donne quelque chose aujourd'hui, contente-toi de ça. Si tu as mangé, bénis le Seigneur. Si tu n'en as pas, comme tu aurais voulu, bénis le Seigneur. Mais tu ne vis pas pour ce que tu vois à la télé. Tu ne vis pas pour les publicités que tu vois à la télé. Tu ne vis pas pour acheter la dernière marque. Tu vis pour Jésus. Ce que Jésus te donne, contente-toi de ça. Je voulais lire pour vous et à nous tous ce dernier passage assez long pour renforcer l'idée non pas du contentement cette fois-ci, mais de partager, de donner. Un disciple sait donner. Je me souviendrai toujours un jour, j'étais venu dans une réunion de prière. L'apôtre Dallo nous apprenait la foi et on était disciples à ses pieds. C'était des réunions de samedi. Un samedi avant, tout le monde s'est préparé, s'est organisé pour me faire plaisir. Ils ont prévu de me faire beaucoup de bien. Ils ont prévu des habits pour moi, des choses même que je n'aurais jamais pu imaginer que quelqu'un pouvait penser m'en faire comme cadeau. Ce samedi-là, matin, j'arrive. On finit la prière. Je vois que tout le monde est un peu agité. Et il me dit, OK, aujourd'hui, on a pensé à toi. Chacun a sorti des habits, de l'argent, des chaussures. Je n'en revenais pas. Je dis, mais pourquoi vous avez fait tout ça? Ils ont dit, aujourd'hui, on a pensé à toi. On a juste pensé te donner. Être un disciple, c'est apprendre à donner aux autres. Et Paul veut partager un exemple des Macédoines aux autres disciples. Il dit, je ne vais pas vous forcer la main, mais je veux juste vous dire ce qui s'est passé. Il précise d'ailleurs, je ne vais pas vous donner un ordre, je vous partage juste un témoignage de comment les gens ont donné. Et j'ai pris ce texte dans la version de Parole Vivante et je vais lire ce texte pour que nous puissions clôturer cet enseignement. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 15. Soyez patient avec moi. Il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par des multiples afflictions. Mais au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés débordants de joie. Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Leurs dons ont dépassé tout ce que nous aurions pu espérer. Pourquoi ? Ils se sont tout d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Cela m'a encouragé à demander à Tite de mener à bonne fin chez vous cette œuvre de bienfaisance qu'il a si bien mise en train. Vous êtes riches sur tous les plans, qu'il s'agisse de la foi, des dons de la parole ou de la connaissance, du zèle pour toutes sortes d'œuvres ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Partout vous vous distinguez, nul doute que vous tiendrez aussi à être au premier rang dans cette œuvre de générosité. Notez bien, je ne vous donne pas un ordre. Je vous cite seulement en exemple le zèle que d'autres ont déployé pour fournir une occasion de prouver la sincérité de votre amour. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour et sa grâce envers nous. Il était riche, mais il s'est fait pauvre. Et par amour pour vous, il a vécu pauvrement afin que par sa pauvreté, vous soyez riche, vous soyez enrichis. C'est donc un simple conseil que je vous donne ici dans votre intérêt et vous n'avez pas besoin d'autre chose. En effet, n'est-ce pas vous qui avez pris l'initiative de cette collecte? Depuis un an déjà, vous avez pris une décision à ce sujet. Vous avez donc lancé ce projet et commencé à le réaliser. Achevez donc à présent votre œuvre commencée. Apportez à la terminer selon vos moyens l'empressement que vous avez mis à la décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, selon ses moyens, Dieu se réjouit et le moindre don lui est agréable. Nul ne peut donner plus que ce qu'il a et Dieu ne mesure pas notre générosité à ce que nous donnerions si nous possédions davantage. D'ailleurs, il n'est pas question de vous réduire vous-même à la gêne pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement d'équilibrer les situations suivant le principe de l'égalité. Aujourd'hui, vous vivez dans l'abondance, votre superflu peut subvenir aux besoins de ceux qui sont dans les dénuements. Un jour, leur superflu pourrait pourvoir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'avait pas de superflu, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Frère, ce texte dit tout. Paul dit, je ne vous force pas, mais un bon exemple, apprenez à donner. Un disciple sait donner. Et je ne veux pas vous rappeler la campagne de dons, j'en ai parlé au début. Je veux surtout et par-dessus tout vous rappeler que vous avez reçu. Vous devez apprendre à donner. Et un disciple est celui qui apprend à se contenter de ce qu'il a et à donner. Demain, on va parler simplement de... Probablement, est-ce qu'on va réussir à entamer cette affaire-là? Oui, on va réussir. Comment faire un disciple? Vous êtes disciple, la responsabilité, c'est aussi faire des disciples. Et demain, on va apprendre comment on se met dans cette responsabilité de se multiplier en faisant d'autres disciples. Mais en attendant, je prie que le Seigneur vous garde éveillé, veillez, priez, car Jésus revient bientôt. Let's teach! Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.